Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé grâce au podcast, mais aussi sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM bien évidemment. Bienvenue à vous, je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine. Aujourd'hui 24 septembre, au niveau de l'éphéméride, en 1789, dans sa communication à l'Académie royale prussienne des sciences, Martin Klaproth présente sa découverte de l'uranium, c'était en 1789. Le 24 septembre 1989, cette fois un petit peu plus proche de nous en France, c'est l'ouverture aux voyageurs de la branche ouest du TGV Atlantique en direction du Mans. Et enfin en 2014, la sonde indienne Mars Orbiter Mission est mise en orbite autour de la planète Mars. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'Inde au niveau de l'actualité spatiale, et pourtant c'était une grosse actualité en 2014. On en avait parlé dans cette émission parce que l'Inde rentrait également dans la compétition. Alors là, c'est ils sont un petit peu plus, comment dire, plus discret, on va dire, mais en tout cas, voilà, il y a quand même aussi l'État indien qui est également présent. Au niveau des naissances et des décès, le 24 septembre 1870, c'est la naissance de Georges Marie-Auguste Claude, physicien et chimiste français. Il fut un inventeur industriel et praticien remarquable par l'étendue et la diversité de ses travaux. Il a créé, entre autres, la création du tube néon. Et plusieurs de ses découvertes ont mené à la fondation de la société Air Liquide. Alors, son prestige souffre un peu de sa collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et son attitude collaborationniste lui vaut d'être radié de l'Académie des sciences en 1944. Georges Marie-Auguste Claude. Décès le 24 septembre 1945 de Hans Geiger, ou Geiger, physicien allemand. Alors Geiger, oui, ça nous dit quelque chose, c'est bien sûr l'inventeur du compteur Geiger, c'était en 1928, compteur dont il imagine le principe dès 1913. Geiger est donc décédé le 24 septembre 1945. Comme quoi, voilà, il y a des scientifiques dont le nom passe à la postérité et d'autres pas du tout, bien sûr. Mais c'est un petit peu l'occasion, lors de cet éphéméride, d'évoquer tous ces scientifiques, bien évidemment. Allez, plusieurs actualités que nous allons développer dans cette émission. On va faire un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler des véhicules électriques et notamment des batteries qui sont ininfablables, qui ne sont pas onéreuses et qui sont dotées de matériaux disponibles en abondance. Les batteries au sodium-ion, elles disposeraient du profil parfait pour alimenter en énergie les véhicules électriques si elles ne souffraient pas d'un long défaut. C'est une longévité qui est limitée et donc ça bloque un petit peu la prolifération de ces fameuses batteries au sodium-ion. Eh bien, cela pourrait changer car une équipe de recherche du Laboratoire National du Pacifique du Nord-Ouest, c'est aux États-Unis, ça dépend du département de l'énergie américain, eh bien, cette équipe a mis au point une batterie dont la longévité a été étendue et pourrait parvenir. Les chercheurs ont planché sur ce qu'on utilise dans ces batteries et le composant qui, justement, faisait un petit peu péricliter rapidement ces batteries. Concrètement, ce qu'on utilisait, c'est ce qu'on appelle un électrolyte, et l'électrolyte actuel engendre la dissolution du film protecteur de l'anode au niveau des recharges, et c'est bien que plus on rechargeait, plus ça détériorait, et c'est ce qui entraînait la perte de capacité. Et bien, cette équipe de recherche a mis au point un nouvel électrolyte qui est capable de générer une couche protectrice sur la cathode et sur l'anode. Et la présence de cette couche ultra fine a permis d'augmenter le nombre de cycles au-delà de 300. Un cycle de charge au-delà de 300, c'est quand même beaucoup plus intéressant. La perte de capacité, elle est restée en dessous de 10% sur le modèle de laboratoire de la taille d'une pièce de monnaie. Avec cette faculté, eh bien, cette technologie pourrait à l'avenir venir un petit peu se frotter aux batteries que l'on connaît, c'est les batteries lithium-ion, pour pouvoir équiper les véhicules électriques ou bien pour pouvoir stocker de l'énergie. Alors, Entre autres avantages qu'ils ont, donc en plus d'être ininflammables, eh bien ces batteries sodium-ion sont capables d'affronter des températures extrêmes, donc ça peut être vraiment intéressant. Leur densité reste inférieure à celle des batteries lithium-ion et c'est pour cette raison que cette technologie devrait être réservée aux véhicules électriques peu énergivores, mais il n'empêche que on va pouvoir développer des nouvelles batteries qui seront des batteries au sel dans les véhicules électriques. On sait très bien que c'est un défi technologique de grande envergure. Et donc, du coup, si on arrive à trouver une technologie qui permet de pouvoir améliorer de façon substantielle l'efficacité de ces batteries, on va pouvoir déployer un parc automobile électrique beaucoup plus important, bien évidemment. Donc il y a énormément de recherches qui sont menées actuellement. On a quelques informations qui sortent de temps en temps et c'est pour ça qu'on les évoque dans cette émission pour essayer de suivre un petit peu de près le déploiement de ces nouvelles technologies, bien évidemment, au niveau des voitures électriques, bien sûr. Mais voilà, une annonce qui va plutôt dans le bon sens, on va dire, c'est ce qui a été évoqué très récemment. C'est un article qui date du début du mois de septembre. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer pendant cette petite heure à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Abidjan, soleil de plomb, dans ce bois kaki, m'emmène jusqu'à l'aéroport, me vient soudain une envie de, rien ne va plus, il faut ouvrir la fenêtre. Je laisse tout s'échapper, tout en sortant la tête. Thank you.
C'était Ganimandé avec je vais pas y arriver. Comment ça s'écrit? Baka Geyser. Enfin bref, le groupe s'appelle Ganimandé sur tête de graphite, désolé. Mais c'est pas toujours simple, hein, en fait. Hein. Je sais pas, il faudrait qu'on ait des fiches pour nous présenter un petit peu tous ces groupes que l'on passe sur antenne de graphite, parce que franchement, je découvre en même temps que vous cette programmation. Alors, les choses sont faciles à dire, mais alors là, c'était pas simple. Sur l'antenne de graphite, tous les samedis, entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique pour se tenir informé de l'ensemble de l'actualité dans différents domaines. Technique, médical, spatial, bien évidemment. Et donc au niveau médical, on va parler cette fois-ci de la maladie d'Alzheimer. C'est souvent qu'on en parle dans cette émission parce que évidemment, il y a beaucoup de recherches qui sont menées dans le domaine du cerveau, d'une façon générale, et notamment la maladie d'Alzheimer. C'est la principale forme de démence dans le monde, hein, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe pas de moyen de guérison. Elle est causée par l'accumulation d'agrégats de protéines et ces agrégats sont anormaux dans le cerveau. C'est une maladie qui évolue lentement sur des années, mais qui finit toujours par provoquer la mort de la personne atteinte. Plus précisément, ce sont des protéines tau et des peptides qui sont les responsables, qu'on appelle des peptides bêta-amyloïdes, qui s'accumulent et qui forment des plaques sur l'extérieur des neurones. Ça bloque donc la communication entre les neurones. Les protéines tau, quant à elles, elles sont retrouvées déformées, enchevêtrées et présentes en grande quantité au niveau des neurones détruits. Donc quelque part, on sait ce qui se passe. On compte environ 50 millions de cas dans le monde, près d'un million en France, avec une majorité de personnes de plus de 65 ans. Et bien souvent, la maladie est détectée trop tard. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, comme par exemple la perte de mémoire, eh bien les troubles du langage, de l'humeur ou de la désorientation également, ça veut dire que le cerveau est déjà endommagé. Alors, bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour stopper ou même ralentir la maladie, des chercheurs ont étudié un moyen de prévenir l'agrégation de ces protéines. Leur technique, elle a été détaillée dans une publication de la revue Nature et ça repose sur un échange sanguin, c'est-à-dire un grand nombre de transfusions sanguines. Actuellement, les traitements qui sont testés ne fonctionnent pas, principalement pour une raison, d'après les chercheurs, c'est que les molécules thérapeutiques sont arrêtées par la barrière qui se trouve au niveau du cerveau, qui isole le cerveau de la circulation sanguine et donc qui sert de filtre. Et donc, plutôt que de tenter d'éliminer les plaques qui sont déjà présentes dans le cerveau, eh bien les chercheurs se sont concentrés sur la prévention de l'agrégation de ces fameuses protéines en plaques. Et leur idée, c'est d'apporter du sang neuf, entre guillemets, et ils ont fait ça sur des souris atteintes de la maladie et d'observer ensuite le développement des plaques amyloïdes. Et les vaisseaux sanguins dans le cerveau sont classiquement considérés comme la barrière la plus imperméable du corps. C'est ce qu'a déclaré Akihiko Arayama, qui est l'auteur principal de cette étude. Il est chercheur à Houston, aux États-Unis. Il explique « Nous avons pris conscience que la barrière est en même temps une interface très spécialisée entre le cerveau et la circulation systémique. » Et donc, ils ont injecté à des souris malades du sang normal de souris de type sauvage ayant le même bagage génétique, tout en leur prélevant, essayer d'effectuer un réel échange sanguin. Et donc, il y a eu de nombreuses transfusions sanguines qui ont été effectuées. Et ils ont constaté une réduction du développement de ces fameuses plaques jusqu'à 80% et également une diminution de leur taux de croissance au fil du temps, en plus d'une amélioration, bien sûr, des performances de la mémoire spatiale chez les souris un peu plus âgées. Et donc, il l'explique ainsi, le mécanisme exact par lequel l'échange sanguin réduit la pathologie et améliore la mémoire est actuellement inconnu. Cependant, les chercheurs supposent qu'une diminution de ces fameuses protéines, les bêta-amyloïdes dans le sang, permettrait ensuite de redistribuer ce contenu dans le cerveau vers le sang. Ça marque tout de même, selon les chercheurs, un nouvel espoir dans les traitements. Mais voilà, les transfusions sanguines ralentiraient la progression de la maladie. Donc là encore, c'est une pierre qu'on ajoute en plus dans ce domaine-là. C'est très souvent dans cette émission qu'on a des articles qui ajoutent un élément supplémentaire. Ça veut dire qu'on est encore loin, bien évidemment, d'un résultat optimal. On est encore très loin de trouver la solution, de trouver une thérapie qui soit efficace. Mais ça avance, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a quand même très souvent des articles qui traitent de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on sait que c'est des domaines scientifiques dans lesquels il y a énormément d'équipes de recherche qui travaillent. Et du coup, voilà, on commence à cerner un petit peu plus les axes de recherche. On sait un peu ce qui se passe, mais comment on peut prévenir, comment on peut résoudre, c'est assez problématique. Mais en tout cas, voilà, c'est une information qui est plutôt, on va dire, optimiste, bien sûr, dans ce domaine-là. Autre chose quelque chose d'un petit peu plus plaisant, on va dire. Et la question est la suivante, le secret, quel est le secret pour passer une bonne nuit? Eh bien, il y a des chercheurs de l'Université de Texas qui ont travaillé sur cette question. Et la réponse pour eux, c'est un matelas assez particulier, un matelas haute technologie. C'est une équipe de bio-ingénieurs spécialisés dans les appareils thérapeutiques qui régulent la température. Et cette équipe a intégré un système de chauffage et de climatisation dans un matelas et un oreiller. Et ça permettrait de déclencher l'endormissement. La sensation d'être somnolent ou complètement éveillé sera en partie contrôlée par le rythme circadien de la température corporelle. En outre, la peau de la nuque constituerait un thermostat corporel important. Ils ont donc créé un oreiller chauffant et un matelas qui peut réchauffer et refroidir le corps. Et le système vise en fait à réduire la température des parties centrales du corps tout en chauffant la nuque, les pieds et les mains. Et cela augmenterait la circulation sanguine, ce qui favorise la dissipation de la chaleur corporelle. Et cela fait suite à une précédente étude qu'ils avaient menée. C'était une analyse de différentes études qui avaient été publiées en 2019. Ils avaient découvert qu'un bain de 1 à 2 heures avant de dormir améliore la qualité du sommeil et permet de s'endormir en moyenne 10 minutes plus rapidement. La température optimale du bain, c'est entre 40 et 43 degrés. Cela stimule en fait le système qui va réguler la température du corps et ça réduit donc la température de ce corps. Et dans leur étude publiée dans le Journal of Sleep Research, il y a des volontaires, alors c'est une dizaine, qui ont utilisé deux types de matelas. Un qui régule la température avec de l'eau et l'autre qui régule la température avec de l'air. Et les chercheurs leur ont donc demandé de se coucher 2 heures plus tôt que d'habitude afin de rendre l'endormissement plus difficile. Et ils devaient donc activer le système de régulation de la chaleur certaines nuits et pas d'autres. Et les résultats donc de cette première étude sont clairs. C'est que les sujets se sont endormis 58% plus rapidement lorsque la fonction était activée. Et ils ont indiqué en fait avoir mieux dormi. Alors, il est étonnant de constater à quel point un léger réchauffement le long de la colonne vertébrale est efficace pour envoyer un signal au corps afin d'augmenter le flux sanguin vers les mains et les pieds, ce qui permet d'abaisser la température centrale et donc de précipiter l'endormissement. C'est ce qu'explique Kenneth Daler, qui est l'un des auteurs de cette étude. Et il dit « Ce même effet permet également à la pression artérielle de baisser légèrement pendant la nuit, ce qui a pour avantage de permettre au système cardiovasculaire de récupérer du stress lié au maintien du flux sanguin pendant les activités quotidiennes, ce qui est très important pour la santé à long terme. » Alors, même si le principe, bien sûr, de la thermorégulation est déjà confirmé par la littérature, eh bien, il ne s'agit que d'une preuve de concept pour l'instant. On est quand même sur une étude assez peu étendue. Les chercheurs auraient besoin, bien sûr, de mener une étude à plus grande échelle pour pouvoir valider ces premiers résultats. Toutefois, ils ont quand même déjà déposé un brevet, ils sont malins, et ils cherchent des partenariats avec des fabricants de matelas pour commercialiser leur système qui permettra donc à chacun de nous de pouvoir se l'approprier et d'essayer ce système chez soi. Mais donc voilà, un matelas qui permet de nous plonger dans un sommeil profond plus rapidement et un sommeil récupérateur grâce à un système de régulation de la température pour pouvoir agir sur la température du corps. Voilà ce que c'est aussi la science, c'est ça qui est intéressant. On en apprend tous les jours et c'est formidable. It's not just me, it's not just you, it's so the amount of people not feeling shit like this is like all preparations are made. Ripe and ready, renegade over any drop that hit greedy gremlins like a roll of rusty pennies. Enemies of any scatter and spread just like buckshot, piercing club spots, windows and ducks drop, fear of heights, mirrors, lights, disco balls, flipping, fall, I'm licking off, miss the mop and glow. Die
got the flow, exquisite beats come with it, that's optional, yeah. Mr. Lift, Mr. Elevation, high exalted, rises to the top, he's in the cockpit. Mosh pit, hop in, I'm getting my licks in. Mission fixated and fixed in 6 minutes. That's the business, that's bound beyond physics. Capture glimpses of the glow, there's no limits. Sew up the sector, snatch up the treasure chest. Split it up, and this is what perfection is. Get a grip.
It's not just me, yes.
It's not just you, it's
so the amount of people not feeling shit like this is like. It's not just me, yes.
It's not just you, it's
so the amount of people not feeling shit like this is like.
On the theory that everything in the world would be all right if everyone knew and understood the truth, we're going to try and lay out some of the issues.
I'm new with my dystopian mope again. The restaurants I used to go to, man, them shits ain't opening. A moment of silence for moms and pop shops that gave a unique flavor to every block. Now the streets I walk are empty, and I'm sensing a bold tension, so determined and unrelenting. A warm hello is like a brick of gold as we stroll through this nuclear cold. Invisible bomb causes much harm as a physical bond. I look to find my peoples and their faces are gone. Now our eyes float a mere quarter inch above fabric. We've adapted, but mental effects remain tragic. Yo, Liffindel is like Zinfandel, the dark root when the whole world needs a reboot. Told my mans if we could link and make a track, then we'd be on, but I was wrong. Now all my friends work for Amazon.
Everybody.
Yeah.
Everybody.
Yeah, man.
It's like. Okay.
It's not just.
Is it?
It's not just.
Really?
So the amount of people not.
Nobody, but I repeat.
It's not just me, yes.
It's not just you, it's.
So the amount of people not feeling shit like this is like. It's not just me, yes.
It's not just you, it's.
So the amount of people not feeling shit like this is like.
C'était Wax Taylor avec Everybody sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion tous les mardis entre 10h et 11h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On sait que la guerre en Ukraine a montré à quel point les drones peuvent être des armes redoutables et donc face à un risque d'attentat terroriste pendant la Coupe du Monde de football, le Qatar compte mettre en place un système de sécurité pour empêcher les drones d'attaquer les stades. La solution choisie fera appel à des drones d'un genre particulier. Le ministère de l'Intérieur du Qatar a conclu un accord avec une entreprise, la Fortem Technology, qui déploiera des drones intercepteurs de drones. Quand même assez formidable ça. Et ils sont donc baptisés des Drone Hunters. Ce sont des appareils qui seront autonomes, guidés par un radar. Ils sont équipés d'un filet qu'ils peuvent tirer sur une cible pour l'immobiliser et ensuite le déplacer en lieu sûr. Et lorsque la cible est trop grande pour être transportée par drone, eh bien l'intercepteur utilisera un filet muni d'un parachute afin qu'il se pose en douceur sans risquer de blesser quelqu'un. Alors les drones font partie du système SkyDome qui inclut aussi un radar assisté par intelligence artificielle. Et donc le cofondateur de Fortem Technology, Timothy Bean, précise que les cibles sont identifiées grâce, je cite, à une série de radars de très petite taille répartis sur l'ensemble du site. Ça va créer une image complète de l'espace aérien directement au-dessus. Le bruit des drones ne devrait toutefois pas être audible pendant les matchs puisqu'ils opèrent à plus d'un kilomètre du stade. Alors, selon l'entreprise, donc le Drone Hunter peut arrêter les drones de groupe 1 et 2 du classement américain, c'est-à-dire jusqu'à 25 kilos quand même, donc c'est déjà pas mal. Le constructeur a récemment déployé une version portable en Ukraine, capable d'arrêter les drones russes qui ont une envergure de plus de 3 mètres. La firme a également déjà utilisé des systèmes anti-drones pendant d'autres événements sportifs, ainsi que lors du Forum économique mondial de Davos. Mais voilà, donc des drones qui vont surveiller d'autres drones pour surveiller les stades pendant la Coupe du Monde de football. L'actualité au niveau de la Coupe du Monde de football est assez intéressante. Je rappelle qu'il y a 15 jours, je crois, lors de l'émission de rentrée, on avait évoqué ce système d'intelligence artificielle qui allait participer à la détection des hors-jeux. Donc voilà, la technologie maintenant devient de plus en plus importante pour essayer de, comment dire, d'améliorer les performances de l'organisation d'un tel événement. Autre chose concernant l'aspect médical et l'aspect astronomique. Les astronomes prennent quotidiennement, on le sait, des photographies du ciel nocturne pour identifier et analyser les cibles dans chacune de ces images, mais aussi donc bien sûr cartographier leur progression au cours du temps. Et donc les astronomes développent des logiciels de traitement d'images. Eh bien, cette technologie a désormais été adaptée avec l'idée de surveiller l'évolution des grains de beauté chez les patients ayant un haut risque de développer un mélanome. Les travaux correspondants ont été présenté en juillet lors d'une réunion, la réunion nationale d'astronomie au Royaume-Uni, par le docteur Meredith Morell, qui est chercheuse à l'université de Southampton. Le mélanome, c'est l'une des formes les plus graves de cancer de la peau. Selon Vidal France, le mélanome ne représente que 10% des cancers cutanés, mais il est à l'origine de la grande majorité des décès dus à ce type de cancer. Selon une étude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers, le service de biostatistique des hôpitaux civils de Lyon et Santé publique France, et on sait qu'il y a environ 15 500 nouveaux cas de mélanome qui ont été détectés en France en 2018. Il y a près de 2000 personnes qui en sont mortes. Et donc, selon l'Institut national du cancer, le mélanome représente ainsi environ 4% de l'ensemble des cancers et il touche autant d'hommes que de femmes. C'est le cancer pour lequel le nombre de nouveaux cas par an augmente le plus. Depuis 30 ans, l'évolution de l'incidence est de 4% par homme chez les femmes, chez les hommes et 2% chez les femmes. Néanmoins, l'identification précoce augmente considérablement le taux de survie. La survie nette standardisée à 5 ans est ainsi estimée à 93%, avec un taux de mortalité en excès quasiment nul au-delà des 5 ans de suivi. Alors habituellement, les patients sont considérés comme à haut risque. Ce sont ceux qui voient tout leur corps photographié et inspecté par un dermatologue afin d'identifier toute indication que des grains de beauté existants pourraient avoir changé et s'être transformés en mélanome. Cependant, ce processus prend énormément de temps parce que ça nécessite bien évidemment que des dermatologues hautement qualifiés examinent visuellement chaque grain de beauté et il repose souvent sur un certain degré d'autodiagnostic de la part des patients. Et donc ce projet qui a été mis en place, qui s'appelle Mole Gazer, ce qui veut dire en fait tout simplement observateur de grains de beauté, eh bien c'est une collaboration entre l'université de Southampton et l'hôpital universitaire d'Oxford et ce projet vise donc à combiner l'analyse des données astronomiques avec la photographie du corps entier qui est utilisée par les dermatologues pour surveiller les patients. Et donc dans le cadre du projet, la peau d'un patient, elle est un peu traitée comme le ciel d'arrière-plan dans une image astronomique. Et tous les grains de beauté sont traités comme des étoiles. En clair, c'est ça qui est mis en place. Le logiciel trouve ces étoiles et donc peut identifier les changements au fil du temps pour pouvoir alerter d'un éventuel danger. Cette analogie permet une identification et une analyse automatisée des grains de beauté au fur et à mesure de leur évolution dans le temps. Donc c'est vraiment totalement intéressant, bien sûr. Et en utilisant des images du corps entier d'un ensemble de patients à haut risque, eh bien ce projet a fourni une espèce d'histoire de l'évolution des grains de beauté individuels. Et tout cela sera désormais utilisé pour les grains de beauté risquant de se transformer en mélanome. Alors, les chercheurs aimeraient aller encore plus loin, de créer une carte de la façon dont les grains de beauté bénins se transforment en mélanome pour essayer d'aider au diagnostic le plus en amont possible. Parce qu'on le sait, l'identification précoce est la clé pour de meilleurs résultats, bien sûr. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, c'est un logiciel d'astronomie. Et au final, ça aide à surveiller les grains de beauté. C'est aussi un exemple scientifique assez intéressant où on voit comment ce qu'on a développé dans un domaine peut servir dans un autre domaine, bien sûr. Allez, un peu de musique, on écoute M sur l'antenne de Graphite.
Madame rêve d'atomiseurs et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplisse de bonheur. Madame rêve d'artifice, de forme oblongue et de totem qui la punisse. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui le pingle au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin.
M avec Madame Rêve sur l'antenne de Graphite. M, on l'écoute bien sûr sur graphite.net, sur Internet, avec peut-être aussi un vieux poste dans votre cuisine ou alors dans votre voiture, autoradio. On pourrait peut-être aussi écouter M sur un CD, sauf que on le sait très bien, les lecteurs CD ont quasiment disparu des magasins. Mais le disque compact, lui, il existe encore et les ventes d'albums sur CD ont même augmenté aux États-Unis l'année dernière pour la première fois depuis 17 ans. Alors je ne savais pas, je voyais très bien le renouveau du vinyle, mais alors je ne pensais pas que les CD existaient encore et que ça avait repris un peu d'ampleur. C'est apparemment ce qui a été annoncé. Mais le support en plastique, lui, il dure beaucoup plus longtemps que nécessaire et la majorité des CD risquent de finir trop tôt ou tard dans une décharge. Alors il y a des chercheurs de l'Université d'État de New York qui ont trouvé une nouvelle solution pour recycler les CD ou tout au moins les CD dorés. On se souvient de ces CD qui étaient assez beaux, on était fiers d'en avoir. Dans un article article publié dans la revue Nature Communications, eh bien, ces chercheurs décrivent leur méthode simple pour réutiliser la couche dorée afin de créer des capteurs biométriques flexibles. Ils peuvent surveiller l'activité électrique dans le cœur et les muscles, la circulation sanguine, la température corporelle et puis aussi évaluer les niveaux de glucose, d'oxygène. Et donc, pour séparer la couche métallique du support plastique, les chercheurs trempent le CD dans de l'acétone pendant 1 minute et demie. Le métal est prélevé grâce à une bande adhésive en polyimide qui sert aussi de support pour les capteurs. Et ils utilisent ensuite une machine de découpe grand public, on en trouve un petit peu partout, qui est disponible, et tout ça pour quelques centaines d'euros. Et l'idée, c'est de pouvoir découper des motifs dans la couche métallique afin de créer directement les capteurs. C'est le type de motif spécifique qui détermine ce que mesure le capteur, bien sûr. Alors, le processus de fabrication, ça nécessite entre 20 et 30 minutes. Il ne fait appel à aucun produit dangereux. Et puis, ça coûte pas cher. Donc, c'est quand même pas mal. C'est assez intéressant. Et ça permet ensuite de pouvoir brancher un petit module Bluetooth avec une batterie et ça permet d'envoyer des données sans fil à un smartphone. Bref, les applications sont assez nombreuses et donc les chercheurs souhaitent désormais explorer le recyclage des CV argentés. C'est ceux qu'on connaît un peu plus, ces cervets argentés qui sont beaucoup plus répandus, pour tester la gravure laser et ainsi accélérer le processus. Donc, ne jetez plus vos CD parce qu'ils peuvent être transformés en capteurs intelligents. Voilà, je ne pensais pas à ça en fait, je ne sais même pas qu'est-ce que l'on fait. J'ai des vieux CD, je ne sais même pas où ils sont, mais du coup, voilà, ça peut être intéressant éventuellement de pouvoir les recycler. Comme quoi, tout sert en fait finalement. Donc si vous envoyez dans une brocante, voilà, vous pouvez les envoyer à des chercheurs et ils sauront quoi en faire bien sûr. Pardon, excusez-moi. Autre information, et ça a fait quand même beaucoup parler, c'était à la fin du mois d'août, il me semble, cette prouesse qui a été réalisée à l'école de médecine de Yale et qui redéfinit un peu le concept de mort. Toutes les cellules ne meurent pas immédiatement, c'est plutôt une succession longue d'événements. C'est un processus dans lequel on peut intervenir, l'arrêter et restaurer certaines fonctions cellulaires. Qui parle ? Eh bien, c'est David Andrijevic, qui est neuroscientifique à l'école de médecine de Yale. Et donc, restaurer les fonctions cellulaires et même certains organes après la mort, c'est précisément ce qu'il a fait, lui et ses collègues, grâce à un système qui est appelé Organex. Leur expérience a fait l'objet d'une parution, donc il y a quelques semaines, c'était fin août, début septembre, il me semble, dans la prestigieuse revue Nature. Ce système Organex pompe dans le corps de cochon dont la mort était induite en privant les organes de l'animal de sang. C'était sous anesthésie générale. Il y avait un liquide qui remplace le sang. La composition du liquide a permis de restaurer l'activité de certaines cellules et de certains tissus une heure après le décès des animaux. Les cellules du cœur étaient capables à nouveau de se contracter et des régions de leur foie et de leur rein ont aussi montré des signes d'activité une heure après la mort. Nous avons ainsi pu rétablir la circulation à travers tous les corps. C'est ce qui nous a étonnés, c'est ce qu'indique le directeur des recherches, Nenad Stestan. Alors, concernant le cerveau, Organex a permis de maintenir son intégrité, mais aucune activité électrique n'a été enregistrée, ce qui serait un signe que l'animal serait conscient s'il y avait une activité électrique. Mais il n'y a pas eu d'activité, donc ça n'a pas été le cas. Mais les scientifiques ont observé des mouvements involontaires au niveau des muscles et du cou des animaux, des mouvements qui ne semblent pas être contrôlés par le cerveau, mais possiblement par la colonne vertébrale. Et puis les chercheurs n'ont pas encore une explication satisfaisante à ce phénomène, mais il est clair que les animaux n'ont pas été ressuscités. Il faut bien être clair sur ce point-là. Les applications, en fait, de tout ça, ça serait en médecine humaine des applications qui seraient nombreuses, notamment pour prolonger la durée de vie des greffons ou alors pour soigner un organe ou des tissus abîmés après une ischémie, c'est-à-dire quand on prive cet organe de sang. Si cette prouesse augure de nouvelles avancées, bien évidemment, elle soulève bien évidemment des questions d'ordre éthique, surtout dans le cas où l'activité cérébrale serait restaurée après la mort. Je rappelle que ce n'était pas le cas, mais si c'était le cas, là ça pose de véritables questions. Cette expérience souligne que la mort n'est pas un moment, mais un processus biologique qui reste dans une certaine mesure soignable, entre guillemets. Et du coup, notre définition de la mort pourrait être amenée à changer au fil des avancées de la médecine. Mais voilà, ça a été une information qui a fait beaucoup parler il y a quelques semaines de ce cochon qui retrouve certaines fonctions cellulaires et au niveau des tissus une heure après sa mort. C'est assez... assez troublant, je pense. Mais voilà, c'est aussi ça, la recherche scientifique et médicale, parce que derrière, on voit toutes les avancées qu'il peut y avoir. Et là encore, et comme on l'explique très souvent dans cette émission, on peut légitimement se poser des questions d'ordre éthique, bien évidemment, ce qui semble pour l'instant pas encore être le cas, malheureusement. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous nous suivez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, soit en direct, soit en différé, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts, bien sûr, de toutes les émissions. Et puis sur la bande FM, graphite.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. On écoute Barcella sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter cette revue de presse totalement impressionnante.
Je veux être obligatoire au bac pour que les gens parlent de moi. Comment était-il, Barcella, qu'ils analysent méthodiquement ma vie, mon œuvre, mon entêtement, et qu'ils m'apprennent par cœur bêtement, et qu'ils me comprennent. Je veux qu'ils se plaignent des heures durant, car il est vrai que c'est chiant d'apprendre ma vie. Je veux être obligatoire au bac, un sujet de 4 heures à l'écrit, coefficient indéfini, les notes. Des grands hommes qui sont obligatoires au bac, je prouverai au monde que je suis quelqu'un. Tu vois, maman, je m'en sors bien. Preuve que l'entêtement j'ai gagné. Et les sales moments sont passés. Et le sale mot, maman, a germé. Verrai-je mon rêve, maman, s'achever. Sujet au bac, à lauréat, parce que je le vaux bien, un sujet bâclé. Bien trop de fois, on n'y comprenait rien, rien.
Écoute, c'est sur 1999, 5 au bac français, 11 à l'oral.
Obligatoire au bac, c'était Barcella sur l'antenne de Graphite. C'est sympa, je connaissais pas du tout. Ben écoutez, si vous êtes obligatoire au bac, pourquoi pas. En plus, le début de l'année, parler du bac déjà, c'est quand même un peu, ça flingue un peu le moral. Allez, une petite étude de pilote a été menée par Origen. C'est un centre médical australien qui est spécialisé dans la santé mentale des jeunes. Et cette étude présente des résultats prometteurs sur l'effet du CBD. À ça, on en voit de plus en plus du CBD pour soulager les crises d'angoisse chez les patients pour lesquels les traitements conventionnels ne fonctionnent pas. Alors le professeur Patrick McGorry, qui est le directeur exécutif d'Origen, explique « Nous voyons que de plus en plus de jeunes adultes expérimentent l'anxiété, pardon, c'est une forme de maladie mentale chez les jeunes et nous avons un besoin urgent d'innovation thérapeutique. Le cannabidiol, CBD, est une option prometteuse qui apparaît sûre et efficace. Nous avons besoin de recherches scientifiques pour confirmer cela et explorer son intérêt. » Alors, il y a un groupe de volontaires d'une trentaine d'adolescents adolescents et jeunes adultes, hein, c'est âgés entre 12 et 25 ans, qui ont été diagnostiqués pour un trouble anxieux et qui n'ont pu être pris en charge avec des thérapies comportementale, et ils ont donc pris une capsule de CBD de 200 mg tous les jours pendant la première semaine, puis une de 400 mg pendant les semaines suivantes. Ceux qui ne voyaient aucun bénéfice ont pu prendre des doses qui allaient jusqu'à 800 mg maximum. Le traitement a duré 12 semaines, durant lesquelles les participants ont pu également participer à des thérapies cognitives comportementales. Et donc, à l'issue de ce programme, les participants ont rapporté que leur crise d'angoisse était 42% moins sévère. Notre étude pilote conclut que le cannabidiol ne fait pas qu'aider à réduire les symptômes de l'anxiété, mais qu'il est aussi bien toléré. Les effets secondaires les plus fréquents étaient une fatigue et une sensation de sédation légère, mais elles sont apparues au moment où les doses ont été augmentées et ont disparu en quelques jours. Nous n'avons pas vu d'effets secondaires comme des idées suicidaires, l'irritabilité et des problèmes de sommeil qui sont fréquentes chez les personnes qui prennent des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ce sont un petit peu les médicaments conventionnels, entre guillemets. Donc le professeur Patrick McGorry est plutôt satisfait de ces résultats qui sont jugés encourageants, mais qui ne sont pas suffisants pour confirmer l'effet positif du CBD sur l'anxiété. En effet, la structure de cet essai, c'est comme je vous le dis à chaque fois, ça reste quand même un panel assez restreint de personnes, donc il faut quand même avoir une étude un petit peu plus de plus grande envergure, on va dire, et du coup on pourrait essayer d'en savoir un petit peu plus. Il n'empêche qu'on commence à voir apparaître des études sur cette substance issue du cannabis, hein, le CBD, le cannabidiol. Cette étude donc australienne teste ses effets thérapeutiques sur les crises d'angoisse. Et donc, c'est assez prometteur. Il faut voir, bien sûr, les suites qui vont être données au niveau des études suivantes. Mais voilà, ça commence à devenir de plus en plus important. Ça se développe un peu partout. Et du coup, il faut qu'on puisse avoir une idée précise des effets qu'il peut y avoir, bien sûr, quand on utilise ce genre de médicaments. Autre chose, on va parler d'espace là encore, et ça je trouve cette information assez intéressante, parce que l'un des problèmes qui va être assez important pour ceux qui vont partir notamment vers Mars, c'est même un problème capital à l'avenir quand on va faire des longs voyages dans l'espace, c'est l'accès aux soins. Et pour cette raison, eh bien la NASA compte envoyer un robot chirurgien à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est totalement intéressant et bluffant. C'est une start-up de l'Université du Nebraska qui vient de se voir attribuer un budget de $100,000 afin de préparer son robot pour un séjour dans l'espace. Cette start-up s'appelle Virtual Incision. La firme travaille sur ce robot depuis près de 20 ans. C'est un robot qui s'appelle Mira, qui est composé de deux bras articulés avec chacun au bout une petite pince, et des chirurgiens l'ont déjà utilisé pour une colectomie. Toutefois, le robot ne va pas opérer sur les astronautes. Il devra couper des élastiques et déplacer des anneaux avec des mouvements qui reproduisent ceux qui sont utilisés en chirurgie. En fait, le but de ce projet, c'est de pouvoir tester l'appareil sans la gravité terrestre. Et Shane Faritor, qui est le cofondateur de cette start-up, explique « Nous nous attendons à ce que le robot se comporte différemment dans l'espace. Toute force ou jeu au niveau des articulations entraînera une imprécision en apesanteur. Donc, les chercheurs devront devront s'assurer que le robot est suffisamment solide pour survivre au lancement. Ils devront aussi programmer le robot pour effectuer les tests de manière autonome afin de limiter l'utilisation de la bande passante de la Station Spatiale Internationale, ainsi que le temps que les astronautes devront passer dessus, bien évidemment. Et il leur suffira normalement de l'allumer, puis de l'éteindre 2 heures plus tard, ce qui est quand même assez formidable. Alors la NASA prévoit d'envoyer ce robot sur la Station Spatiale en 2024. Il s'agit d'un projet à long terme, puisque la start-up ne s'attend pas à ce qu'elle puisse réaliser des opérations de manière autonome avant 50 ou 100 ans. Alors effectivement, on est encore loin du robot qui va pouvoir effectuer une opération chirurgicale de façon autonome et seule, mais il n'empêche que voilà, c'est un début. Et donc, il va être envoyé dans la Station Spatiale Internationale d'ici 2 ans à peu près. On suivra cela avec grand intérêt, bien sûr. C'est totalement fascinant, moi, je trouve, franchement, ces informations. Je ne sais pas vous, mais je trouve cette émission assez réjouissante et optimiste. Il y a des jours comme ça, ben c'était aujourd'hui, il fallait en profiter. Allez, Mélis Mel pour finir cette émission.
C'est la lutte finale. Un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes, etc. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté, liberté et chérie. Ceux qu'ont la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. Et la fraternité.
Mélis Mel avec Aux Armes sur l'antenne de Graphite. Avec Mélis Mel que nous allons clore cette émission de Graphite sur l'actualité scientifique. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission d'actualité scientifique. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur graphite.net et sur le 94.9. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.